Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Pepsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du Pepsi Apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
On est au final.
Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique.
Allez, les pronostics, ça se joue au Parc des Princes.
Alors,
PSG, Chelsea.
Paris favori, je dirais 2-1 pour Paris.
Roma, Real Madrid.
2-0 pour le Real.
Le plus fort, le plus rapide. En un mot, le meilleur.
Marseille-Paris, tiens.
Bon, allez, moi je dis 2-1 pour Paris, alors.
Je suis le patron et je vous emmerde.
Et bravo, monsieur. Hop, on va arrêter la chanson. Monsieur Aurélien Lacaze, bravo.
Merci, bonjour à tous.
Et... première fois que ça arrive dans l'Instant Sport, une première, il aura fallu attendre la 45e émission. Alors combien tu as gagné d'argent ?
Zéro, parce que malheureusement j'ai pas parié.
Ah ben bravo.
Généralement quand je parie de l'argent, je gagne pas. Donc,
Non mais c'est vrai, impressionnant, félicitations à toi. Trois résultats d'affilée, quasiment d'affilée, juste.
Sur le foot, ouais.
Voilà, sur le foot, bon, tu nous as donné une belle leçon, on va essayer de se rattraper. Mais en tout cas, bravo, encore bravo.
Je deviens le spécialiste foot, j'ai l'impression, dans cette émission.
Il y a du haut niveau, là. Franchement, là, ça va être compliqué de rivaliser.
Hein. Et je crois qu'en plus, c'est le sport où j'y connais le moins.
Et ouais. Alors, par contre, tu n'as pas été trop bio-ionique samedi soir, mais on va y revenir.
Non, pas du tout.
Salut Patrick, un week-end lausérien chargé et un week-end lausérien heureux.
Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, on va en parler bien évidemment. Beaucoup de bonnes surprises pour nos équipes et nos sports collectifs.
Luc Respon est là également. Salut Luc.
Alors, bonjour tout le monde.
Normalement, quand tu gagnes, le BCM gagne.
Quand je marque.
Quand tu marques, pardon. Ouais. Et...
je crois qu'en fait, la vraie réponse, c'est que je n'ai pas vraiment marqué, en fait, parce que je crois que c'est plutôt une erreur de la table de marque. Parce que je ne me souviens pas d'avoir marqué un panier dans ce match. Donc,
C'est comme Waddle, tu sais, il a pris un coup, il a marqué.
Il a pris une manchette et bon.
C'est ça, absolument.
Alors, Laurent n'est pas là aujourd'hui. Il m'a envoyé une lettre d'excuse, mais c'est un peu long, alors je ne vais pas la lire. Par contre, en parlant de Laurent, coupe d'Ahu au Chastel, de partout, 96e minute, pénalty pour l'AFL, au bout du suspense et qualification, par un but de Patrick.
Ben de notre consultant.
Exactement, but de Laurent. Bon, en fait, non, il y avait 3-0 à la mi-temps, puis l'alcool a fait son affaire et le Chastel est remonté à 3-2. Mais bon, ils ont gagné, comme Angers. A perdu.
Contre Montpellier.
Contre Montpellier. Allez, on va commencer par nos amis basketteurs. Castelnau, 73, BCM, 37. Alors, monsieur Crespon, au lieu d'envoyer sur les réseaux sociaux des photos de l'échauffement, ça serait bien que tu t'échauffes, car je vois, premier carton, 14-0 pour Castelnau.
Ouais, bah je jouais pas le premier carton, ça tombe bien.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, Fanny sur un carton? Quand même, ça c'est rare. Quand même.
Non, je crois pas, parce que même le pire carton qu'on avait fait, c'était quand on était...
Moïseung, non, ça existe
qu'on
pas.
On était que 5 sur un déplacement à Vergès, on avait quand même fini par marquer. On lance ses freins à la dernière seconde. Non, là on n'a pas marqué. Bon, on a eu des gros soucis de réussite sur ce premier carton, bon, sur l'ensemble du match aussi, mais particulièrement sur ce premier carton. Mais ouais, une entame de match un peu compliquée. Première mi-temps un peu compliqué, on s'est un peu repris en deuxième, mais ouais, c'était compliqué dans ce grand palais des sports de Jacques Charmand Delmas de Castelnau, une superbe équipement. Bon, c'est vrai qu'il doit pouvoir contenir 2000 personnes, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, il y avait 7 spectateurs, ça faisait un peu vide.
Non, mais en fait, tu disais, il se souvient pas qu'il est marqué. En fait, il a voulu faire une passe, et un gars de Castelnau a voulu intercepter, et donc en interceptant, le ballon est tombé dans le cercle. Alors, c'est vrai que pour la table de marque, on peut pas marquer contre son camp, donc il a accordé au passeur.
Tu sais que quand ça arrive, parce que ça arrive parfois, c'est accordé au, le panier accordé au capitaine.
Ah,
et donc, en l'occurrence, j'étais coach et capitaine sur
ce voilà, match-là. Voilà, donc, c'est pour ça, voilà, tout s'explique. Tout s'explique, c'est bon.
Et c'est pour ça que le capitaine a 6 points.
Exactement. Donc un match effectivement très difficile de ma part particulièrement. C'est vrai qu'on a galéré sur le premier quart-temps, que ce soit en attaque, en défense. Après sur le reste du match, on a pas réussi à trouver nos marques et nos repères. Donc c'était assez compliqué.
Alors surtout Patrick, la perf du week-end, eh oui, eh Mons eh oui. gagne à domicile.
Et Mogu aussi non a gagné.
Et non Mogu a perdu. Mogu a perdu. 56 à 54 contre Alès. Et ouais. Vous êtes mal, les gars.
Non, si, il faudra juste les battre quand ils viendront à la
maison. Vous êtes à égalité de points avec Mons,
non,
mais avec un match
en retard. Ils ont un match en retard. Donc, quoi qu'il arrive, ouais. Ils seront devant nous, puisque la défaite est à un point et la victoire à deux. Et je veux juste préciser que si j'étais capitaine samedi, c'est pas parce que j'ai piqué la place d'Aurélien, c'est juste que quand tu es entraîneur et joueur, tu es également capitaine. C'est comme ça, c'est le règlement.
Obligatoirement.
Voilà, obligatoirement.
Comme Tony Zirel quand il a entraîné Gognon et qu'il jouait.
Mais en revanche, comme je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le terrain, quand j'étais pas sur le terrain, c'est Aurélien qui est capitaine.
Et ouais, bon.
Voilà, tout s'explique.
Un match oublié.
Exactement, un match à oublier. Ouais, effectivement, maintenant va falloir gagner contre Mons. On a plus le choix. Hein.
Il va falloir gagner contre Mons. Il va falloir gagner contre Moggio. Les deux derniers matchs à la maison, je pense que c'est jouable. Le prochain match est. Les deux prochains matchs vont être très compliqués hein, parce qu'on reçoit Fabregue, le co-leader, et Saint-Gély, le leader. Donc bon, on va peut-être pas miser gros sur ces deux matchs. Enfin, sauf si le spécialiste des paris prévoit une victoire. Hein, à ce moment-là.
Non, mais c'est un spécialiste foot.
Ouais, juste foot.
On sait jamais, mais ouais, il va falloir... cravacher sur les 3-4 derniers matchs de la saison.
C'est samedi le prochain ?
Non,
là on a une petite trêve pendant les vacances et donc le prochain match c'est le 12 mars.
Le week-end du 12 mars.
Ok, bah allez, nous on va faire trêve aussi lundi prochain. On va se reposer un peu.
Il faut.
Comme ça je pourrais prendre des vacances. Rugby, le RCML va s'imposer à Trèbes 9-3, mi-temps 3 partout pour Trèbes, une pénalité. Et 3 pénalités pour le RCML de Vessade, 14e, 69e, 80e. Au classement, Aurélien ?
Alors, au classement, Vinassan est premier avec 40 points. Deuxième, Cruzy-Saint-Chinian, 38 points. Troisième, Nissan-Colombier, 34 points. Quatrième, Toche-Corbière, 34 points. Et cinquième, Mende, 31 points, mais avec un match à moins.
Voilà, 9 points du leader Vinassan, Patrick, un match en moins.
Enfin, une victoire à l'extérieur, c'est la première de la saison. On l'attendait depuis énormément de temps. Ça permet de relancer cette équipe mandoise en vue des playoffs. On sait que c'est au rugby, ça marche comme ça si tu veux accéder à la division supérieure. Bon, maintenant il y a un match dimanche prochain à domicile contre le dernier de la poule qui est à la RIC. Là, je vois sur ton classement Aurélien, donc dimanche au chapitre à 15h, donc un match largement à la portée du club, peut-être certainement, il faut l'espérer, un point de bonus, donc 5 points de plus, Mende a un match en retard suite au terrain qui était fermé le week-end précédent. Bon, voilà, une victoire logique parce que au niveau des pénalités tentées, il y a eu beaucoup plus de tentatives du côté mandois que du côté des locaux, et sans une relative maladresse du buteur mandois, l'écart aurait pu être beaucoup plus important et beaucoup plus tôt, puisqu'il y a eu deux pénalités sur le poteau en première mi-temps et deux ou trois autres échecs. Donc tu le vois, il y a quand même une domination exemplaire de l'équipe mandoise, une victoire logique, même si elle est serrée.
Voilà.
Je vois 9-3, un carton rouge partout. J'imagine que les élus ont dû se régaler sur ce match.
Ouais, ça a été très chaud.
Il y a dû avoir de grosses envolées.
Il y a un carton rouge partout et quelques cartons jaunes. Je pense qu'il y a une belle générale qui s'est déclenchée aux alentours de la 60e, me semble-t-il. Et je crois que ça a dû finir à 3 ou 4 cartons jaunes de chaque côté, un rouge partout. Ouais, je pense que ça a été un peu chaud, je pense.
Il y a une action aussi à la fin, quasiment dans les arrêts de jeu. Un des locaux qui était près de la ligne mandoise, il a fallu défendre à tout bout de champ parce que ça aurait pu basculer, un essai transformé des locaux, tu perdais 10-9. Bon, là, la défense a tenu et belle solidarité de l'équipe. Bon, on espère maintenant un enchaînement de victoires.
Alors, il faut être combien pour faire les playoffs, tu le sais?
Alors là, si tu te souviens quand on a reçu le coach, même lui, il ne savait pas trop.
Je crois que c'est 5 ou
6. 4-5, il parlait de 4-5, peut-être même 6 maintenant, mais bon.
Ouais,
voilà, il faut finir les 4-5 premiers pour faire.
Ouais, je pense que 5e, c'est 5e.
Mais si tu finis 4-5, après tu vas aller. Remarque, est-ce que c'est sur un autre ou sur l'extérieur? Je crois que le premier tour est à l'extérieur. Ouais, voilà, donc il faut pour ça finir dans les 2-3 premiers pour recevoir.
D'accord.
Victoire avec bonus, c'est combien de points?
5
points.
Ah, donc à 31, tu peux passer 3e. Ouais.
Surtout que tu as un match à moins. Et
avec ce match à moins.
Bon, tu vas avoir de gros matchs aussi à domicile contre quelques cadors de la poule. Donc une fin de saison vraiment hyper importante qui se prépare.
Je ne sais plus qui a pris le carton rouge pour le.
C'est Mathieu Boursier.
Ouais, c'est Mathieu le pilier. Donc il va falloir faire sans pilier aussi, avec un pilier à moins.
Tu ne joues pas le match d'après au
Bah oui, même tu peux attendre. Je suis suspendu plusieurs semaines. C'est une semaine, c'est pas un match.
Ouais, ça dépend des rapports des arbitres.
Ouais.
Ah ouais.
Là, dans le cadre d'une générale, je sais pas du tout.
Ouais. Ça peut être une semaine, deux semaines. Ça dépend aussi, parce qu'il garde ton dossier sur plusieurs saisons.
Ouais.
Donc il tape ton nom, et puis s'il voit que tu as un dossier chargé, tu prends plus que si c'est la première ou la deuxième fois.
Ouais, Mathieu, je pense pas qu'il ait pris beaucoup de cartons rouges ces dernières saisons. Même le RCML, en règle générale, pas dire que ce soit une équipe qui doit encombrer les dossiers de la commission de discipline.
C'est vrai.
Ouais, en tout cas une très belle opération pour le RCML après ces matchs qui ne se sont pas joués les dernières semaines.
C'était indispensable parce que tu joues contre un club qui est juste derrière toi, donc t'imagines si tu avais fait une contre-performance, c'était presque une croix sur la suite de la saison. Voilà, ça te permet de garder tous tes espoirs.
Ouais, et puis une victoire extérieure, c'est toujours bon pour le moral et bon pour la suite de la compétition.
Ouais, c'est la première de la saison, je crois.
Ouais.
Donc.
Ouais.
Je me demande même si c'est pas la première depuis très très longtemps. Je suis pas certain qu'ils aient gagné beaucoup l'année dernière à l'extérieur.
Ouais. Mais là, en plus, c'est un bilan totalement équilibré. 12 matchs, 6 victoires, 6 défaites.
Ok. Bon, mais on va espérer que le bilan devienne positif dans quelques temps.
Ouais.
Une excellente opération ce week-end pour le MVL au gymnase Piancourt, Mamba, Marseille volé 3-7 à 0, 25-21, 25-14, 25-16 devant près de 300 spectateurs. En plus, dans le même temps, Monaco a perdu 3-7 à 2 à Alès et Montpellier 3-7 à 1 à Arles. Donc au classement, Aurélien, on en est où?
Donc premier Mende avec 22 points, deuxième Monaco 16 points, troisième Arles 13 et quatrième Montpellier 12 points.
Ça sent bon, Patrick?
Ça sent très bon. Montpellier, on avait annoncé c'était Montpellier et Monaco comme les deux plus sérieux concurrents pour l'accession. Et on voit que Montpellier finit une deuxième phase vraiment poussive, un début, puisque deux matchs, deux défaites. Donc on peut dire maintenant que Montpellier est, à mon avis, hors course pour l'accession. Donc il reste plus que nos Mendois et Monaco. Et donc tu avais commencé avec 5 points d'avance, maintenant tu en as 6. Donc tu vois qu'au bout de 2 journées, tu as conforté ton avance et tu reprends tes bonnes habitudes de la première phase à domicile où tu as annoncé les scores. Les deuxième sets et troisième sets, ça a été quasiment une boucherie face à cette équipe de Marseille qui, bon, avant le début du championnat, dans notre poule, était annoncé vraiment comme un gros favori avec une grosse ambition. Bon, Marseille, on sait quand même... tous la deuxième ville quand même en France, avec un club de volley qui stagne en N2, donc il y avait beaucoup d'ambition du côté de Marseille pour justement accrocher ce niveau élite, et donc on voit que cette équipe n'arrive pas à rivaliser avec nos Mandois, et donc et à mon avis maintenant hors course elle aussi pour l'accession.
Oui, je pense que ça va se jouer entre les Mandois et les Monégasques, et finalement on avait annoncé une équipe de Monaco costaud. On voit qu'ils ont perdu contre Alès, c'est pas nécessairement la plus grosse équipe de la poule du MVL en première phase. C'est peut-être signe que cette équipe elle est peut-être pas aussi forte qu'annoncée. Donc, à voir.
Et Alès qui nous fait beaucoup de bien, puisque la semaine dernière, ils ont gagné Montpellier. Et là, cette semaine, ils gagnent Monaco. Donc, bravo à nos amis alésiens. Et continuez comme ça. Ils déblaient bien le terrain pour notre équipe.
Oui, étonnante cette équipe de l'Est.
C'est vrai.
C'est sûrement l'ancien club de Constant. Alors je sais pas, peut-être qu'ils veulent lui faire plaisir. Mmh. Je sais pas.
Bon, d'ailleurs Constant, on peut le dire, non, Valentin, tu nous as fait une annonce hors antenne. Voilà,
il faut croiser Constant, en discuter avec lui. Et c'est vrai que c'est un fervent auditeur de l'émission, et il a entendu qu'on était prêt à faire le déplacement à Monaco. Il a dit que si la montée était acquise avant le match de Monaco, attention, hein, Parce qu'il a dit, si la montée n'est pas acquise avant le match de Monaco, mais essayez pas de me parler, vous ne me verrez pas. Il y aurait une petite fête prévue sur le rocher ou du moins dans les environs pour célébrer tout ça.
Et que l'Instant Sport est invité.
Bah, évidemment.
Mais il sait combien il boit, Laurent, en soirée.
Par contre, j'ai pas osé le dire. Mais
parce que là, ça va plomber pour l'an prochain, ça sert à rien de monter, ça va plus de budget.
Ça va plomber le budget du club. Ça va plomber les finances du club.
Voilà. Non, mais bon, là, il y aura une exception, une soirée spéciale, donc aucun problème.
Non, mais surtout, on espère évidemment que les Mandois auront cette montée en poche avant ce déplacement à Monaco. C'est bien parti.
Surtout que tu les reçois avant, Monaco.
Voilà,
surtout oui. Que là-bas. Donc si tu gagnes déjà chez toi, voilà.
Surtout là, là ce dimanche, tu vas à Montpellier, dimanche qui arrive.
Ouais, et une victoire, ça condamnerait définitivement, même s'il a 10 points de retard, ils ont quand même peu d'espoir. C'est sûr qu'une victoire contre Montpellier, ça les éliminerait directement.
Ouais, mais j'ai l'impression que Montpellier, ça va être quand même le premier gros test de cette deuxième phase de ces playoffs. Parce que là, on a joué Arago et Marseille, qui sont les deux derniers de la poule. Donc, effectivement, le prochain match à Montpellier, je pense que c'est très important pour la confiance et pour la suite des playoffs.
Il y a une journée énorme dimanche prochain, puisque les quatre premiers se rencontrent, puisque tu vas à Montpellier et Arles se déplace à Monaco.
Ouais.
Donc voilà, les quatre premiers sont en opposition.
Si Arles avait la bonne idée d'accrocher Monaco, ne serait-ce que 3-2, et si dans le même temps le MMVL pouvait rééditer sa performance contre Marseille, on serait quand même pas loin du compte. On serait déjà.
La route serait vraiment ça sentirait bien dégagée.
Ça sentirait très très bon, parce que c'est vrai que ce championnat. C'est quand même compliqué quand on a beaucoup de points de retard après de les remonter. 6 points, ça commence à faire un bon petit matelas. Faut pas s'endormir sur ses lauriers. Mais je pense qu'en bouclant la phase aller avec ne serait-ce qu'avec ces 6 points, voire un peu plus d'avance, je pense que on serait pas loin de la vérité.
Mais il faut faire attention à Montpellier qui a perdu ses deux matchs, qui, à mon avis, ils vont vouloir vraiment gagner ce
match. Ça va un peu gueuler quand même, parce que pour une réserve d'un club pro. Bon, c'est bien de faire les playoffs, mais bon, après, c'est sûr que si tu fais une deuxième phase en roue libre, avec, par exemple, sur 8 matchs, 6 ou 7 défaites, on peut quand même penser, il y a des garçons après qui sont susceptibles de signer des contrats pro, aussi bien à Montpellier que dans d'autres clubs. Donc, c'est leur intérêt aussi de se montrer, en particulier dans une phase de playoffs.
Ceci dit, on peut penser la même chose de la réserve de 7 et qui a quand même bien du mal à débuter ses playoffs.
Absolument, et pendant ce temps, la pré-nationale masculine gagne 3-7-1 contre Carcassonne et consolide sa 5e place. Bon résultat encore.
Ouais, bon résultat de la réserve, belle saison hein, quand tu es 5e. Bon, il n'y a pas si longtemps, si quand même, quelques années, c'était la première qui jouait à ce niveau. Hein. Donc tu vois tout le parcours de ce club. Là, on parle 30 secondes d'un résultat de la réserve. Bon, si cette émission avait été créée il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on aurait fait demi-heure sur ce match contre Carcassonne. Bon, avec l'équipe première, on voit quand même tout le parcours quand même assez fabuleux de ce club de volley amande.
Et il y a une dizaine d'années, si cette émission avait eu lieu, ils étaient à 25-30 points par match, hein, les deux Lolo.
C'est ça, on était un petit peu plus jeunes, on sautait plus haut et on courait un peu plus vite. Ouais.
C'est ça, beaucoup plus vite.
J'ai pas le résultat des filles, personne. Je sais même pas si elles jouaient.
Je crois qu'il n'y avait pas de match.
Je crois qu'elles jouaient
pas, non. C'est pour ça alors. Allez, un autre match au sommet, le match même au sommet du week-end, avec l'AFL qui recevait le premier ex-aequo, Narbonne, et l'AFL gagne proprement, 2-0, but de Gourmand à la 13e, Diédiou à la 46e, devant 500 spectateurs, donc ça c'est à noter après les 300 du gymnase Piancourt, 500.
Oui, c'est à même autant, hein. Et deux coups d'envoi à 15h.
Ça fait 800 Mandois qui sont sur les terrains de sport, c'est vraiment une belle chose. 2-0, Luc, sur ce match.
Maîtrisé, a priori, de quasiment de bout en bout, avec des Narbonnais qui sont menés 2-0 à la pause, qui perdent leur gardien un peu après l'heure de jeu, qui prend un carton rouge. J'ai eu le capitaine Fadil ce matin, ils étaient contents d'avoir gagné. De la prestation aussi, parce qu'ils estimaient que malgré les deux dernières victoires contre Latte et à Perpignan, ça avait été un peu difficile, ça avait été un petit peu dans la douleur, et ils voulaient montrer à leurs spectateurs qu'ils avaient leur meilleur visage, et ils ont réussi. Sachant qu'ils étaient quasiment au complet, il manquait juste Dorian Rebolloso.
Ce qui est pas mal, parce qu'il était suspendu. Il était en pleine bourre.
C'était l'homme en forme.
C'est vrai que c'était l'homme en forme. Voilà, Fadil qui réussit à ouvrir la marque. Et derrière, donc, Ibou Diédiou qui est aussi en forme ces dernières semaines. Ils étaient plutôt satisfaits du résultat. Ils avaient aussi en tête la mésaventure de l'année dernière, donc ils savent maintenant qu'en cas d'égalité avec Narbonne, ils seront devant. Voilà, après il faudra confirmer pas ce week-end, mais le week-end prochain, contre Frontignan, encore à domicile, histoire de reprendre, d'essayer de prendre un peu le large. Et voilà, ils savent qu'il leur reste 8 matchs, comme m'a dit Fadil, hein, ce sera 8 matchs de coupe pour arracher enfin cette montée en CFA2.
Patrick ?
On se dirige vers mano à mano maintenant entre Mende et Narbonne, donc toute l'importance de cette victoire d'hier. C'est vrai, hein, qu'on avait dit dans cette émission, on avait reçu le coach, bon, on avait eu quelques prestations, bon, il y avait la victoire, beaucoup de buts, mais une impression générale où on avait l'impression d'une difficulté, en particulier dans le jeu, cette relation entre la défense et les milieux et puis la transmission vers l'attaque. Donc on l'avait souligné, et d'un autre côté, on parlait d'une équipe de Narbonne qui était vraiment sur une dynamique exemplaire, avec un enchaînement de victoires et parfois sur des scores assez astronomiques. Et donc c'est vrai que peut-être que ça a piqué certainement certains joueurs, certains cadres de l'AFL, parce que bon, quand on parlait, on ne le disait pas comme ça, mais presque on disait que voilà, la dynamique était du côté de Narbonne, et les favoris étaient en fait cette équipe de Narbonne. Et puis là, donc hier, on a assisté à une victoire mais éclatante, hein, où l'AFL a dominé vraiment son adversaire aussi bien sur le score, mais aussi au niveau du jeu. Et on a eu l'impression que, bon, j'étais pas au match, mais c'est vrai que j'ai vu quelques supporters qui m'en ont parlé, et donc voilà, un peu l'avis unanime de chacun, c'était que on n'a pas vu Narbonne. Donc, c'est-à-dire que la victoire est tout à fait logique. On n'a pas vu vraiment une équipe de Narbonne qui était en capacité de faire un résultat, même un match nul. Vraiment, Narbonne était loin de faire un résultat, loin de la victoire sur ce terrain du chapitre. Et donc l'AFL a sorti le match quand il fallait, au bon moment. Bon, 3 points d'avance au classement, plus le goalage particulier. Bon, mais on a les cartes en main. C'est vrai que les saisons précédentes, c'était l'AFL qui était obligé de faire la course derrière et de rattraper. Maintenant, c'est l'inverse. C'est toi qui es en tête. Et donc, je pense, alors après, il y en a qui vont dire, ils vont mettre derrière. Bon, ouais, moi, bah, je pense qu'ils vont mettre devant.
Ces dernières années, l'AFL était plutôt derrière et jamais réussi à franchir le pas.
3 points avec le goal average, ça fait 4 points. Hein,
tu peux le dire, ça fait 4 points. C'est exactement ça.
Juste d'autant que dans le même temps, Perpignan-Bavernay a eu la bonne idée d'aller battre Perpignan-Ossé.
Perpignan-Canet.
Voilà. Perpignan-Ossé, qui, même s'ils étaient un petit peu relégués, restaient quand même
une menace. Ils sont quand même 3e à 47 points avec un match de moins. Donc tu dis à mano à mano, mais ils ne sont pas lâchés, hein, Perpignan, avec 4 points de plus.
Mais je sais qu'il y a ces fameux 3 points qui ne sont pas...
Je pense que ce match en moins, c'est pas ce fameux match en moins, c'est pas ces fameux points là de pénalité.
Non, parce qu'ils ont un match en retard contre Latte. D'accord. Okay. Contre
Latte. Ah oui, j'avais oublié. Bien joué, Patrick. Voilà.
Et ce dimanche, il y a le fameux match en retard de Frontignan qui va à Conques, donc ça permettra à Frontignan de se mettre un ric-rac avec le calendrier. Donc Frontignan aura aussi le même nombre de matchs que l'AFL à partir de dimanche prochain.
Ils peuvent passer 3e s'ils gagnent à 50 points, donc à 6 points de l'AFL.
Voilà.
Ouais, moi je voulais rajouter, il y a eu l'absence de Rebolloso sur ce match, mais il y a eu le retour aussi de blessés.
Oui.
En
défense.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est jamais évident sur un match comme ça, de haut de tableau, de revenir de blessure. Ça doit pas être évident quand même. Donc ça prouve aussi la constance du groupe en entier, des gars qui ont remplacé les blessés, maintenant qu'ils reviennent. Je trouve que le groupe vit bien du coup.
On l'a déjà vu la semaine dernière avec le buteur miracle Momo Adani qui
était dans le groupe de nouveau.
Qui était à nouveau dans le groupe cette semaine et qui avait dû disparaître de l'équipe première depuis peut-être deux ou trois saisons, non, Patrick?
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
Et qui est revenu là sur le dernier match pour marquer le but de la victoire.
Un but importantissime parce que ça te fait deux points d'écart. Bon, ça peut compter en fin de championnat.
C'est Almeiras qui est revenu, hein,
oui,
notamment.
Oui, Almeiras. Bon, Pierre Tessier aussi était là. Bon, donc bon. Oui, il y avait des retours.
Il manquait que Rebolloso qui était
suspendu.
Qui était suspendu. Donc, à noter aussi que normalement l'AFL doit jouer un match de Coupe de la Région mercredi.
Oui, ce mercredi. Oui.
Contre la Grande Motte. La Grande Motte ou le Gros du Roi?
Oui, oui, la Grande Motte.
Bon, c'est loin d'être acquis. A priori, les joueurs de la Grande Motte ne se déplaceront pas, risquent de ne pas se déplacer.
Voilà, ça c'est prévu à 20h. C'est prévu à 20h. Et le même jour, donc ce mercredi, il y a Marojol qui aussi joue en Coupe de la Région, mais à 20h30, donc à Marojol contre Aigues-Mortes. Ouais. Donc c'est les deux derniers matchs des huitièmes de finale. Donc on espère que nos clubs vont passer en quart de finale.
Ouais. Donc s'ils passent, les Mandois joueront Uzès en quart de finale.
Oui. Et Marojol jouera Saint-Gilles.
Mais d'après ce qu'on m'a dit, d'après les rumeurs qui tournent en ce moment, la Grande Motte aurait fait savoir qu'ils n'étaient pas très motivés pour monter.
En plus, il doit neiger, je crois, mercredi.
En tout cas, j'espère que pour eux, ils le diront suffisamment tôt, parce que si tu regardes sur le site de la Ligue, les arbitres, trois arbitres et le délégué sont déjà désignés. Donc c'est puisque tu es au niveau DH, ce sont des arbitres et des délégués qui viennent de hors département, donc Gare ou Hérault. Donc la facture serait très élevée pour la Grande Motte si elle ne déclare pas forfait avant ce mercredi soir.
Comment ça se passe dans ce cas-là? Il faut payer le déplacement des arbitres pour le club qui a fait forfait plus une amende?
Certainement, bien évidemment. Et bon, le mercredi, si la Grande Motte n'est pas là, c'est Mande qui va payer les arbitres parce que des fois c'est la Ligue, mais bon, il se peut très bien que ce soit Mande qui soit obligé de payer les arbitres et le délégué. Mais après, la Ligue se charge bien évidemment du dossier. Et donc, comme ils ont accès directement au compte, enfin c'est défalqué automatiquement, c'est automatiquement remboursé, et donc là il y a tout un tas de procédures bien évidemment. Et bon, faire forfait un huitième de finale de Coupe de la Région qui est vraiment l'étendard de la Ligue Languedoc-Roussillon, ben pour la Grande Motte, bon, je pense qu'il y aura des conséquences assez importantes pour les saisons suivantes. Hein.
Ouais, ça arrangerait mal en plus, non?
Ça te fait
un match en moins avant le match du week-end qui est assez important.
Là, ce dimanche, tu joues en Coupe de la Région. Parce que le dimanche après. Si tu te qualifies mercredi, tu rejoues dimanche le quart de finale.
Contre Uzès, donc.
Voilà.
C'est à Uzès.
Ah. Et si Marojol bat Aigues-Mortes mercredi, il joue aussi dimanche en quart de finale et il se déplace à Saint-Gilles.
D'accord.
À Uzès qui est en PHA, hein, c'est ça?
Oui, voilà, ils sont quoi, Uzès? PHA.
PHA, oui, puisqu'ils sont redescendus.
Voilà, c'est le club qui a eu des énormes problèmes financiers, qui était en national, CFA, CFA2, et donc là, qui maintenant a été rétrogradé la saison dernière, à l'intersaison, en PHA. Mais qui est quand même en haut de tableau et qui va jouer la montée avec Rousson pour réintégrer la DHR l'année prochaine.
Ouais. D'accord.
Enfin, encore une fois, l'éventuel forfait de la Grande Motte, c'est juste une rumeur, hein, pas encore confirmée.
C'est un quart de finale contre Uzès.
Oui. Ouais. Parce que là, mercredi, c'est les huitièmes de finale.
D'accord.
Et tous les autres matchs ont déjà eu lieu. Donc, il reste que ces deux matchs qui concernent les clubs losariens.
Ça avait été reporté. C'est pour ça que. À cause de la météo, hein.
Puis des matchs, tu avais un match en retard contre Frontignan, justement, le match aller. Et donc, c'est pour ça que tu n'avais pas pu jouer le dimanche contre la Grande Motte.
Et le championnat reprend donc le week-end d'après.
Voilà, le 6.
Et la FL recevra Frontignan.
Tu reçois Frontignan.
Ah, c'est bien, là, ça donne quelques.
Voilà, tu as quelques beaux matchs en perspective.
Ça nous assurait presque une place en demi, parce qu'une PHA, même si c'est.
Ouais, après,
normalement, t'es favori.
C'est vrai que cette Coupe de la Région, quand même, sourit à la FL, puisqu'on avait perdu en finale.
Contre Frontignan,
voilà. Non, ça s'était joué à Frontignan, mais contre la réserve de 7. Et donc, voilà, Mande avait ouvert le score au bout de 30 secondes, et tu avais quand même perdu 3-1 au final.
Ouais, après.
Même plus, non?
Contre une équipe, qui avait été quand même renforcée de 7 avec quelques joueurs qui étaient en CFA2, je crois, à cette époque-là, ou CFA, bon.
Voilà. Ouais. Bon, après, c'est peut-être pas l'objectif principal du club.
Non, cette année, c'est sûr que c'est le CFA2, l'objectif, bien évidemment.
C'est sûr. La réserve de l'AFL, elle obtient un bon résultat également. Générac, 3-1, but de Brunel, Ostalier et Bousquet. Donc c'est très bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas.
Ah oui, il le fallait parce que tu es dans cette zone de relégation, Donc victoire en plus à l'extérieur, ça faisait un moment qu'on piétinait, et donc belle victoire des réservistes. Donc ça donne du baume au cœur. Et d'ailleurs, au niveau du calendrier, dimanche prochain est prévu ce fameux match en retard contre Uzès, donc qui avait été remis amende. Donc voilà, donc tu pourras pas jouer à la fois la première en Coupe de la Région et à la fois la réserve en championnat, un match en retard de PH1. Donc a priori la réserve sera au repos dimanche prochain.
D'accord, c'est pas mal ça. Marvejol ne jouait pas ce week-end, Patrick.
Exempt,
et du coup, pendant ce temps, la réserve de 7 est allée gagner à Poussant, 2 buts à 0. La réserve de Béziers a gagné à domicile contre Huchot, 3 buts à 2. Donc au classement, Marvejol se retrouve 3e à 46 points, il y a un match de moins. 7 premiers à 54 points, et Béziers 2e à 53, donc ça commence à faire pas mal.
Oui, alors, petit point réglementaire, Marvejol a porté réclamation contre 7.
Ah.
Lors de la défaite 2-1 en terre sétoise, donc la semaine précédente. Alors bon, c'est pas sûr, bien sûr, que 7 est match perdu, mais pour une question de qualification par rapport au nombre de joueurs qui évoluaient en équipe première et donc qui après qui sont rejetés en équipe réserve. Donc la réserve va être examinée par la Ligue, on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, sur le classement officiel de la Ligue, le résultat n'est pas encore entériné de cette défaite à 7.
D'accord, ah oui, ils n'avaient pas le droit de mettre.
Tu sais pas, Marvejol a porté réclamation.
Il porte réclamation, il ne le porte pas dans le vide.
Ouais, mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même plutôt rare qu'une réclamation soit retenue. Quand tu fais le pourcentage, il y a plus de réclamations qui sont rejetées qui sont validées. Donc, on va attendre.
Ouais, après, sur ce genre de.
Le verdict.
Ce genre de réclamation, c'est assez. C'est soit le gars a joué plus de temps de match ou moins. Bon, après, c'est généralement, c'est pas. C'est vraiment l'application bête des textes. Donc c'est vrai que généralement, c'est assez vite traité. Et la réponse est généralement assez rapidement donnée, parce que bon, ça ne mérite pas d'enquête. Ce n'est pas comme quand il y a des violences ou des choses comme ça. C'est un peu plus compliqué.
Ok, on va suivre ça. Match nul pour le FL, à domicile, un but partout, but sur coup franc de Régis Brunel à la 62e, une égalisation de Chamalières à la 85e. Alors un match un peu fou, pas mal d'absents du côté de l'ENL qui prend un rouge à la 55e, puis le gardien adverse est exclu à l'heure de jeu en position de dernier défenseur. Donc après le but de Brunel, l'ENL prend un deuxième rouge avant l'égalisation. Donc 2 points perdus au final contre un concurrent direct au maintien et 2 joueurs suspendus au prochain match, Bastien Rua et Boubacar Faye, leurs défenseurs. Un match un peu fou qui fait pas les affaires de l'ENL. Hein,
non, bon, tu marques 2 points, certes. Bon, c'est toujours mieux que les semaines précédentes où il y a quand même eu plusieurs résultats défavorables. L'ENL va cravacher jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on avait reçu Vivien Fontune, on l'avait un peu entre guillemets asticoté en lui disant bon, la montée tout ci, mais il avait dit il faut se calmer, c'est vrai. Là on se rend compte qu'il a raison. Quand tu regardes le classement, l'ENL est vraiment en fin de tableau, et avec un voire même 2 matchs de plus que par rapport à ceux qui sont derrière, donc il va falloir serrer les fesses jusqu'au bout.
Notamment par rapport à Saint-Flour, ils ont 2 matchs de moins.
Il va falloir serrer les fesses.
Par rapport à la lanterne rouge.
Vraiment jusqu'au bout.
Puis j'espère que ces cartons rouges ne vont pas leur porter préjudice pour la suite, parce que c'est vrai que quand tu commences à rentrer dans un cercle un peu vicieux de défaites comme ça, c'est toujours dur de relever la tête et d'inverser la tendance. Donc en plus, si tu as des absents pour la suite, ça devient vite compliqué. Ouais,
ouais, c'est vrai.
Absolument. Luc, on revient sur l'FL.
On a oublié la qualification des U19 pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, qui sont imposées 3-1 sur la pelouse de Montpellier-Arceau. Et pour repartir sur l'ENL, on a l'impression qu'ils ont énormément de mal à domicile sur leur nouveau terrain. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet.
Non, mais c'est vrai. Il y a très peu de bons résultats.
C'est vrai qu'ils ont du mal à aller chercher des victoires.
Peut-être le synthétique, hein, c'est pas.
Et par rapport à l'info des U19, merci à notre arbitre préféré. Nous n'avons toujours pas critiqué les arbitres depuis le début de l'émission, donc c'est pour ça qu'il est très attentif. Qui nous envoie des infos. D'ailleurs, l'arbitre contre Narbonne a été très bon. Il a expulsé le gars de Narbonne, donc ça ne peut être que mon arbitre.
Alors, apparemment, c'était
c'est justifié.
C'était justifié. L'attaquant de l'AFL qui le crochette, et le gardien qui est sorti de sa surface, qui, même s'il le touche pas beaucoup, le déséquilibre, et du coup.
En tout cas, ça fait beaucoup de rouge à chaque fois pour les équipes qui viennent au chapitre, puisque la Grande Motte avait pris un rouge, Latte avait pris un rouge, et donc Narbonne a pris un rouge aussi. Donc c'est pour ça que la grande motte ne venait pas, parce que bah, vous n'allez pas encore en rouge mercredi, donc voilà, restez tranquillement au bord de l'eau.
D'autant que pour Narbonne, ça veut dire que le prochain match, ils le joueront sans leur gardien titulaire, et ça oui. peut aussi avoir son importance.
Ouais. Mm. On va renommer ce studio le studio du chapitre, parce que nous aussi, il y a des rouges tous les lundis.
Ouais.
Absolument. Il n'y a pas
d'excuse. Du rouge, surtout.
Dans les autres matchs, match nul de Badarou chez le second, Canabier, Badarou bien placé, bien calé au milieu du classement.
Alors, on avec une égalisation dans les arrêts de jeu.
Dans les arrêts de jeu.
De l'équipe adverse.
Ouais. Ouais.
Donc, bon match. Bon match de Badarou à l'extérieur contre favori pour la montée.
Ouais. Très bien, oui, Badarou, belle saison hein, en tant que promu, il ne faut pas l'oublier.
Très belle saison.
Voilà. Alors, on attendait ce match avec impatience du côté des féminines du handball Nord-Lozère avec la Coupe de France, mais elle attendait peut-être un peu trop, car les filles de Florent Baudin sont complètement passées à côté, réalisent selon leur coach leur plus mauvais match de la saison et sont punies, défaite contre Sillan 18-12. Le match s'est peut-être joué un peu avant, hein, Patrick, hein, comme ça arrive parfois.
Eh oui, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, c'est un jeune club, hein, donc c'est même si certaines filles connaissent bien sûr le handball depuis plusieurs saisons, elles ont joué ailleurs, à Mende en particulier, donc elles ont quand même un beau parcours. Mais quand tu es un jeune club, c'est vrai que quand tu connais tes premières émotions, voilà, tu pars en bus dans un format que tu connaissais pas forcément, même que tu connaissais pas du tout. Bon, c'est vrai, la pression, et une trop pleine d'adrénaline, et puis parfois ça peut t'inhiber. Et, bon, c'est certainement ce qui s'est passé pour les filles de Flo Baudin.
Ouais, et puis Flo Baudin savait que c'était lui misait beaucoup sur son attaque, puisque c'est une équipe qui met en moyenne une vingtaine de buts par match. Il savait que l'équipe de Science, par contre, était une équipe qui avait une très bonne défense, donc il misait sur son attaque pour dynamiter un peu la défense de. La défense de...
Allez, sors-nous-le, allez.
Non, je ne vais pas le dire. La défense de Science, et bah non, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque.
Et oui, parce
ce
que...
fameux théorème, ce fameux théorème que nous ne partageons pas, d'ailleurs.
C'est pas mon théorème, c'est celui de Jacques Monclar.
Ah oui, d'accord.
Je pense que Jacques Monclar...
Jacques Monclar, oui.
Il s'y connaît un petit peu, quand même. Je vais le répéter, puisque apparemment, ça vous manque.
C'est que ça nous a manqué. Là, Aurélien est transpiré.
L'attaque fait gagner les matchs et la défense fait gagner les titres.
Ben là, la défense a fait gagner le match. Hein.
Mais
bon, c'est une belle expérience.
Hein. Oui, c'est une belle expérience. Comme je disais, pour un jeune club, c'est quand même super d'intégrer ce club, de créer quelque chose. Bon, il y avait rien, tu pars de zéro et bon, tu commences déjà à avoir des résultats au bout de quelques saisons. Bon, c'est quand même super. Hein. Il faut souligner tout le travail des bénévoles.
Ouais, puis c'est toujours sympa pour un groupe de jouer des matchs comme ça, de faire des déplacements, de se retrouver. Ça reste quand même une belle expérience, j'imagine. Et puis après, on apprend de ce genre de défaite aussi. Hein.
D'autant qu'il y avait
tu sais de quoi tu parles.
D'autant qu'il y avait un plein.
Je savais que t'allais la sortir.
Il y avait un plein quart de supporters qui les a suivis à Saint-Vallier, donc puisque ça se joue à Saint-Vallier. Dans la Drôme, donc je pense que pour les filles c'est une super expérience. Non, nous on n'a pas de carte de supporters qui nous suivent. Non, je te vois, mais non.
Pourtant il y a de la place dans le gymnase ce samedi.
Ah là, il y en avait, oui.
Allez,
alors si tu veux une dernière petite info foot, on l'a pas signalé, mais on a parlé beaucoup de la Coupe de la Région, mais il faut pas oublier la Coupe Gard-Lozère. Et donc ce dimanche il y a un match incroyable qui va opposer Le Buisson à la réserve de Nîmes Olympique, donc Le Buisson qui est en première division, la réserve de Nîmes Olympique qui est en CFA 2, donc il y a 5 divisions d'écart, donc c'est dimanche à 14h30 sur le stade du Buisson, donc là un événement hors norme pour ce club aussi hyper méritant, et donc qui fait vivre tout un bassin de vie, donc il faut y aller pour encourager, et le deuxième club encore représenté, Lausanne qui est encore présenté, c'est Marvejols. Mais comme Marvejols ne pourra pas jouer le dimanche, le match sera en semaine, mais donc le mercredi, d'après le mercredi 2 mars. Et je crois que Marvejols reçoit encore, il reçoit, je pense, c'est Nîmes Soleil Levant.
Ça leur en fait pas mal, là, des matchs en semaine à Marvejols, ouais. ces derniers temps, puisqu'ils avaient joué, ils avaient battu Beaucaire
oui.
déjà en semaine. Alors est-ce qu'on va revoir le responsable du centre de formation de Nîmes Olympique en Lozère pour ce match de la réserve de Nîmes Olympique contre Le Buisson, est-ce qu'il va faire le déplacement, Christian Mathiello?
Je sais pas, ce serait un joli clin d'œil.
Ce serait rare. Alors,
ce serait un joli clin d'œil.
Je pense pas que ce soit lui qui soit en charge de la réserve. Bon,
je pense pas, mais bon, c'est vrai qu'il a bien évidemment un droit de regard en tant que directeur du centre. L'équipe phare du centre de formation, c'est bien évidemment cette équipe réserve.
Le Buisson favori.
Et puis, c'est un favori, 5 divisions d'écart. Et on se souvient quand même que cette équipe de Nîmes avait battu Marvejols l'année dernière en demi-finale de cette coupe Garloser.
De justesse.
Après prolongation, ouais, après 2-1. Ouais. Et on avait vu un super match. Là, j'y étais. Donc, j'avais vu un match, un superbe match.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Buisson va chèrement défendre, ah oui, défendre sa peau. Et on peut compter sur eux là-dessus, en tout cas.
Qui a fait un 6-4 à l'extérieur dimanche, hier. Le Buisson à Barjac. Barjac, pas en Lozère, mais Barjac dans le Gard. Donc sur le terrain de Barjac, 6-4.
Et je pense qu'il va y avoir du monde au stade et il va y avoir, voilà, une belle ambiance.
Il y a toujours un public énorme. Je me souviens pour les finales de Coupe Lozère, on a vu assez souvent les filles du Buisson qui étaient en finale. Et donc au chapitre, il y avait voilà, des supporters du Buisson énormes, tout en orange et noir avec des drapeaux, les maillots,
les cloches,
et puis ça klaxonne de partout. Et bon, donc on peut imaginer une énorme ambiance dimanche pour ce match contre Nîmes.
Ok, alors on finit cette page sportive lausérienne, handball, on y était, on y revient. Côté garçon, le MGC Coupe de la Ligue, avec une équipe totalement remaniée. Le MGC perd à Vergès 34-29, mais voilà, c'était pas l'objectif.
Ouais, ils ont fait l'impasse, clairement. Il avait annoncé, bon, c'est vrai que tu peux être un peu déçu, parce que quand tu as une équipe comme ça, tu te dis tu peux aller loin, mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi, bon, les suspendus, les blessures, la fatigue, il y a une pression énorme cette année, là, dans ce championnat. Tu sors de match contre Agde, bon, vraiment tu as puisé, une victoire à Marguerite aussi arrachée par les cheveux, donc c'est normal de laisser un peu quelques joueurs au repos.
Ouais, puis c'est vraiment pas l'objectif premier du club, ouais. Donc vraiment c'est pas bien grave. Je crois qu'en plus aussi ça a permis de faire jouer des petits jeunes, je crois. Hein.
C'est ça.
Ça a permis de faire jouer des petits jeunes, donc c'est toujours intéressant aussi de leur apporter à eux cette expérience.
Ouais, puis un petit clin d'œil, c'est que la réserve jouait elle aussi en coupe contre Marguerite, justement, qui avait joué contre la Une la semaine d'avant.
Allez, une pause musicale, c'est dommage, c'est Laurent qui avait choisi la chanson, il n'est pas là aujourd'hui. Sally Ford and the Sound Outside, on se retrouve après pour l'actu nationale, internationale. Et vos pronostics, les pronostics de l'homme bio-ionique pour gagner
l'argent. Moi, je n'en fais plus, moi.
Si, si, allez.
They take the money to town, but just like water on the ground. Said we will find our way. Hallucination, nation. Said we got our vaccine. Dancing for a quarter. Ain't as underground as it seems, just like water on the ground. We will find our way. Well, I'd like to dance with you as the band plays on. I'd like to talk with you till dawn. We'll make a Sunday sound, said both loud and clear. We'll make a Sunday sound that love's here. Love's here. So decompression for air, a minor complication to what it is you caught down there, but just like water on the ground, we will find our way. Well, I'd like to dance with you as the band plays on. I'd like to talk with you till dawn. We'll make a Sunday sound.
friendly, just to remain the apple of your eye. These days, well, I stay busy, 'cause making something out of nothing just ain't passing time. Your feathers in the sun, your California traffic, I said, well, it just ain't no fun. But just like water on the ground, said, we will find our way. Well, I'd like to dance with you as the band plays on. I'd like to talk with you until dawn. We'll make a Sunday sound, you're both loud and clear. We'll make a Sunday sound that love's here. So love's here.
Voilà, c'est reparti. Alors, les spécialistes reconnaîtront, c'est bien sûr les Black Rose et pas Sally Ford, mais ça doit être le destin qui m'a fait pas envoyer la chanson de Laurent. On l'écoutera la semaine prochaine. L'actualité nationale.
Et on s'excuse auprès de Laurent, d'ailleurs.
Et on s'excuse auprès de Laurent, ouais. L'actualité nationale, internationale, ça y est, ça vient de tomber. Serge Aurier est rétrogradé dans l'équipe 3 de l'AFL. Et doit être coaché par Laurent Julien.
Belle recrue, hein, belle recrue.
Belle recrue, non, c'est pas encore tombé. Je regarde depuis tout à l'heure, ça doit tomber dans la matinée, mais bon, c'est déjà une heure et. Ça dure. En tout cas, on va parler de Paris, Ligue des Champions. Donc, le PSG a gagné à domicile 2-1 contre Chelsea. Alors, notre spécialiste Ligue des Champions, Aurélien, le PSG va-t-il passer? C'est un bon résultat?
Ouais, c'est un bon résultat, surtout dans le jeu. Quand on voit, ils ont quand même assez maîtrisé le jeu, la possession de balle. Donc, je pense qu'ils vont passer, même si ça va être compliqué à l'extérieur. Si tu veux un petit pronostic, je sens bien le match nul là. Et puis
non, ce sera la semaine, dans 2 semaines les pronostics.
Bon, d'accord.
C'est dans 3 semaines.
Oui. Patrick, oui, et puis donc, mais je pense quand même qu'ils vont passer. Ouais, on a vu une équipe du PSG assez solide. Donc, ils devraient. Même si quand tu gagnes 2-1 à domicile dans les stats, c'est du 50-50. Je pense que ça va quand même le faire.
Patrick.
Il y a eu un beau match. D'abord, il faut le souligner. C'est vrai qu'on dit souvent que Paris en Ligue 1, les matchs sont loin d'être transcendants. Et c'est vrai, donc on attend vraiment Paris sur cette scène européenne. On n'a pas été déçus, moi, en tant qu'amateur de football, puisque bien sûr je ne suis pas un supporter parisien, mais j'ai vu un bon match, je me suis régalé. Paris a fait voir quand même qu'il pouvait répondre présent lors de ces matchs. Et puis il y a vraiment un joueur que j'adore et qui a fait un match monstrueux, c'est Verratti. Bon, voilà, c'est un joueur pour moi hors norme, qui peut encore progresser, puisqu'il est très jeune. Et donc, indispensable à cette équipe parisienne.
Iniesta, on sait qu'il préférait Verratti que Pogba à Barcelone. Tu es d'accord?
Je pense, bon, c'est vrai qu'il, physiquement et puis dans sa façon de jouer, il rappelle vraiment Iniesta, mais j'aimerais voir un milieu de terrain entre Verratti et Pogba. Je pense que ça serait quand même fabuleux.
À ce moment-là, qu'on fasse signer Pogba au PSG, comme ça au moins.
Mais je le dis depuis des années, avec la puissance financière du PSG, bon, Pogba, c'est le premier joueur que tu dois prendre.
Ouais,
Luc.
Oui, c'est vrai que ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, Pogba, Verratti.
Oussaï.
j'ai tenté de dire, mais de qui il parle? Ah oui, non, mais d'accord, oui. Bon,
et okay. Moi, je voulais,
dans l'équipe Tips, oui.
Ah, avec, oui, c'est vrai.
Je voulais rajouter un joueur aussi, c'est Ibrahimovic qui a fait une super partie. Et c'est vrai qu'on lui reproche souvent de ne pas être décisif sur les gros matchs, sur les matchs de Ligue des Champions. Et là, en l'occurrence, il a quand même sorti un très très gros match. Et aussi parce qu'on le dit pas très souvent, mais souligner le coaching de Laurent Blanc, il met Cavani sur le banc. Déjà, il prend le risque de titulariser Marco Verratti. On savait qu'il était un peu physiquement un peu diminué.
Ça s'est pas vu. Hein.
Et puis faire entrer Cavani, et Cavani qui va marquer ce deuxième but importantissime. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut regretter ces quelques occasions gâchées, même si Courtois fait de beaux arrêts.
Ouais.
Et ce but encaissé, mais je peux rester confiant pour la suite, même si Chelsea est en train de reprendre du poil de la bête. On l'a vu, ils ont fait un très bon match contre Paris. On a recommencé à voir un peu Eden Hazard, ce qui n'était pas le cas ces dernières semaines. Et puis ils ont écrasé Manchester City. Alors bon, pas l'équipe type de Manchester City, l'équipe B de Manchester City. Ils ont quand même mis 5-1 en cup ce week-end. Et ils en avaient mis 5 ou 6.
Hazard a été bon contre Paris. Hein.
Ouais, il peut faire mieux là aussi. Je pense quand même que Chelsea est inférieur à Paris. Et j'ai trouvé aussi parmi les bons joueurs du côté Paris, Thiago Silva, on le décrit aussi parfois un peu fébrile, un peu émotif. On l'a vu avec lors de la Coupe du Monde au Brésil, quasiment en transe, en pleurs, non maître de lui-même. Bon, là, je trouvais vraiment qu'il a été hyper solide. Et pour moi, avec Verratti, ça a été les deux meilleurs joueurs de Paris.
Par contre, grande question pour Di Maria, parce que Di Maria, il fait une passe décisive,
Mais bon, c'est un peu ce genre de joueur-là, capable d'une inspiration. Tu sais très bien, sur 90 minutes, ils vont pas être réguliers, mais tu attends ce coup de génie qui fait basculer les matchs, c'est ce qu'il a fait quand même.
Il est capable de faire basculer un match à n'importe quel moment.
C'est ce qu'il a fait.
Il est capable à tout moment d'avoir un éclair de génie qui te fait basculer un match et qui te fait gagner.
Mais c'est vrai que quand tu parlais de Di Maria, et vu le montant astronomique qu'ils ont mis pour le prendre, mais moi, ce montant-là, je ne mettais pas sur Di Maria, je mettais sur Griezmann. Parce que la somme donnée à Manchester pour prendre Di Maria, tu mettais la même à l'Atlético de Madrid. C'est obligé, ils te l'auraient vendu. Bon, c'est exactement le même, un gaucher, un petit frêle, mais bon, au moins un Français qui revient dans le championnat français et puis qui est un vrai buteur par rapport à Di Maria, tu le vois. Bon, quand tu marques autant de buts à l'Atlético de Madrid, c'est que tu es un buteur, il n'y a pas de problème.
Sinon, t'avais Thauvin pour ce prix-là.
Voilà, mais bon, alors lequel de Thauvin, pas celui qui est revenu, pas celui qui est revenu, celui qui a joué contre Saint-Etienne, qui m'a fait pleurer, quoi. Bon.
On parle de Bilbao ou non?
Ben écoute, on peut parler de Bilbao, on a vu un match quand même assez équilibré par rapport à un club qui est combien, 6e, 7e, 8e. Mandanda n'a eu quasiment aucun arrêt à faire. Un tir de 35 mètres. Bon, il est lobé. Voilà. Et contre Saint-Etienne, un seul tir cadré de Saint-Etienne, un but. Bon,
on arrête de parler des équipes classées 10e. Sinon, on parle 11e, de Montpellier. 11e. Ils sont 14e.
En revanche, je pense peut-être que la meilleure recrue du mercato des Marseillais, c'est l'Écossais.
Voilà, vraiment bon.
Contre
Saint-Etienne, il a fait un vrai bon match. Il vient participer au jeu, il s'arrête pas de courir.
Tout en déviation. Bon,
enfin, il est bon pour un club comme Marseille.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'allais dire. On parle d'un joueur britannique qui jouait même pas dans un club qui est avant-dernier du championnat anglais, et donc qui en quelques matchs à Marseille devient quasiment un héros du public. Et il fallait voir l'acclamation du public quand il est sorti, parce que bien sûr il était rétamé, et donc c'est Batshuayi qui l'a remplacé, heureusement, puisqu'il a marqué. Mais il faut voir cette ovation du public. Donc il a suffi de quelques matchs pour qu'il devienne quasiment le meilleur joueur au niveau du public. Donc c'est vrai que tu as raison de le souligner, et pourtant quand tu vois, bon, il a pas réussi à s'imposer chez l'avant-dernier du championnat anglais.
Oui, en plus il est en fin de contrat, je crois, à la fin de la saison. Oui, donc c'est vrai que il joue aussi sa place, peut-être à Marseille, mais aussi il a toutes les raisons de se montrer et pour décrocher un nouveau contrat. Donc je pense qu'il va tout donner. Ouais, il va mouiller le maillot, comme on dit.
Mais franchement, il est collectif, tout. Il se bat vraiment, un beau joueur.
C'est un Écossais, hein. Les qualités qu'on leur connaît d'abnégation, et c'est un peu des guerriers, ces joueurs-là.
Allez, les pronostics Ligue des Champions, Juventus, Bayern de Munich. Patrick.
2-1 pour la Juve.
Le champion, il est là.
Tu me mets une espèce de pression là.
Grosse pression. Ouais.
Moi, je vais dire match nul, un partout.
Ok, Luc.
2-0 pour le Bayern.
Ok, moi je vais dire 1-0 pour la Juve. Les Italiens fermaient bien le coffre-fort, ça peut être bien. Arsenal-Barcelone, on a joué petit score. Peut-être que là on peut jouer des plus gros scores. Luc, on commence par toi.
3-1 pour le Barça.
C'est Arsenal. Hein.
Oui, c'est Arsenal.
Ouais. Ok, champion.
2-0. 2-0 pour le Barça.
2-1 Barça.
Allez, moi je suis comme le champion, 2-0 Barça. Et ouais, pas fou. Hein. Ok, allez.
En plus, je sens que tu vas me porter la poisse en fait, de dire ça.
Allez, il reste quelques minutes, on va continuer. Alors, Laurent m'a demandé de dire que Portland était sur 3 victoires d'affilée.
Ouais.
Qui d'ailleurs est sur 5 victoires d'affilée, Portland, mais bon, voilà.
Ouais, ils ont surtout battu Golden State et avec un gros match de Damian Lillard qui a un peu éteint Stephen Curry.
Ouais. Ouais. Il a fait une performance curieuse.
51 points.
Ouais. Pour Laurent, ça, je pense que ça lui a fait plaisir.
Et ils sont sur, ouais, sur 5 victoires d'affilée, puisque la nuit dernière, ils ont battu Utah, qui est un concurrent aussi à la 8e place. Et ils avaient battu aussi deux fois Houston, qui lui aussi est un concurrent à la 7e, 8e place. Donc maintenant, ils sont 7e. Et
Houston, il y a un problème.
Ouais, voilà.
Et Laurent a raison, ils vont tomber contre San Antonio s'ils continuent comme ça.
Eh oui.
Et ouais.
Parce qu'il m'envoie des messages, Laurent, disant Tipeee, fais gaffe à tes fesses, Portland arrive.
Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Tipeee, mais c'est le sportif français le mieux payé.
Juste derrière Aurélien Lacaze.
Le classement a été établi par l'équipe magazine.
Faut pas dire.
Par l'équipe magazine ce week-end, et donc Tipeee est le premier, deuxième Benzema.
Ouais. Et troisième. Il y a des baskets.
Ribéry, je crois.
C'est Ribéry, oui, c'est ça. Ouais. Ribéry. Après, il y a Batum qui arrive, etc.
Après, il y aura des basketteurs, parce qu'il y en a pas mal qui sont en fin de contrat, qui vont renégocier
tous leurs contrats. Dans deux ans, Gobert sera certainement le sportif français le mieux payé.
Gobert, Fournier sera pas très loin non plus, parce qu'il va renégocier son contrat.
Ça serait mérité.
Oui. Ouais.
Bah après, on ne peut pas vraiment s'aligner avec les sports américains aussi. C'est
non, c'est sûr.
Et pour en revenir aux Spurs, par contre, même s'ils ont gagné l'année dernière, là, ils sont sur une petite phase descendante, notamment au niveau de la défense. Le coach Popovic n'était pas très content de la défense. Mmh. Donc c'est vrai que là, ils sont un petit peu au creux de la vague. Donc,
Tipeee, meilleur marqueur depuis le match.
Ouais. Hein. J'espère que ça va...
C'est pas très bon signe. Hein, pour les Spurs, c'est quand même pas bon signe que Tipeee soit meilleur marqueur de l'équipe. Hein.
Mais c'est bon signe pour la France. Tipeee qui a annoncé qu'il serait bien présent. Ouais.
Oui. On l'a dit dans un Philippinien.
C'est ça.
Au tournoi.
Pour le TQO et pour les JO, si la France va aux JO.
Oui.
On l'espère tous.
Allez, on va finir juste par le bas de classement de la Ligue 1. Parce qu'on voit que Toulouse et Troyes sont... Presque, on va dire presque, hein, parce que Toulouse a 22 points. D'ailleurs, bravo aux supporters toulousains qui ont fêté
la descente.
Mais,
c'était génial.
C'était génial, c'était bon enfant, vraiment.
On est en Ligue 2.
Bravo.
Ils sont arrivés déguisés avec des cotillons. Ils ont fait des banderoles très, très rigolotes.
Non, mais c'est quand même grave.
C'était bon esprit quand même.
C'est quand même grave qu'un club comme Toulouse soit dans cette situation-là.
Ils ont fait beaucoup de mauvais choix. Toulouse, en recrutement, ils avaient. On se rappelle qu'il y a quelques années, ils jouaient la qualif pour la Ligue des Champions avec Gignac et compagnie.
Ouais.
Je pense qu'ils ont fait de très mauvais choix de recrutement en faisant venir en payant cher déjà à commencer par leur gardien. Je pense que ils ont fait tous les mauvais choix possibles en termes de gardien. Après, ils font jouer un gamin de 17 ans.
De Latt.
Ouais. Et après, voilà, je pense qu'ils ont quand même fait beaucoup de mauvais choix de recrutement qui les ont conduits un peu à.
C'est combien? C'est la cinquième, sixième ville en France. Ouais. Tu te rends compte, au foot, un stade totalement rénové pour l'Euro qui va commencer dans quelques semaines. Bon, tu risques de te retrouver en Ligue 2. Bon, tu m'as dit, ils ont connu pire, puisqu'à une époque, ils étaient en national. C'est quand même un peu pathétique. Cette région. Bon, il y a Bordeaux, mais bon, qui n'est pas Toulouse, c'est quand même une anomalie.
Carole Delga a annoncé qu'elle donnerait tout le budget à Montpellier vu que Toulouse serait en Ligue 2. qui va descendre avec Toulouse et Troyes? Si Toulouse descend, on voit alors Ajaccio 28 points 18e, Reims 29 points 17e, Guingamp 31 points 16e, Montpellier 32 points 15e. Allez, on va remonter jusqu'à Lille, Lorient, Bastia 34 points. Tu sens qui, Patrick, toi?
Ajaccio m'inquiète quand même. Ils ont fait une belle série, bon, même s'ils ont fait match nul à Toulouse et ça s'est joué à une minute près. Bon, ils m'inquiètent un peu quand même. En plus, ils jouent contre Marseille dimanche prochain, donc ils vont perdre.
Et Reims est sur une mauvaise pente aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai.
On avait fait des pronostics, non, d'entrée. Lors de la première émission, de la saison.
Oui, oui, mais on les réécoutera.
D'ailleurs, il y a un pronostic. Il y a un pronostic, je suis sûr de gagner.
Je suis pas sûr que ce soit très bon.
Il y a un pronostic, je suis sûr de gagner. C'est quand tu as interrogé sur Rémi Garde, que je t'avais dit que ce serait un flop à Aston Villa. Donc, tu pourras le ressortir. Donc là, vraiment, Aston Villa, c'est le gros flop.
Merci.
Hein, est-ce que c'est Rémi Garde le flop ou Aston Villa?
C'est compliqué. Je pense que
Reims va avoir du mal. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'Ajaccio est peut-être mentalement mieux armé que les Rémois pour s'en sortir. Ça me semble bien compliqué pour cette équipe de Reims. Voilà, Ajaccio, ils étaient préparés à ça. Ils se sont préparés à jouer ce maintien, un peu comme Evian. Comme Evian ces dernières années, à des équipes qui sont préparées à ça mentalement. Reims, je suis pas certain qu'ils s'y étaient préparés véritablement.
Aurélien, tu veux dire un mot ?
Non, pas du tout.
Ça tombe bien, l'émission est finie.
Enfin, si, je veux dire un mot quand même. Ce week-end, il y a le tournoi des destinations. Vendredi soir, la France qui se déplace au Pays de Galles.
Oui.
Donc, gros match en perspective.
Allez, ça, il veut faire des pronostics parce qu'il voit qu'il est bon. Allez, on va au Pays de Galles ? Allez, on est fou, on va faire un
pronostic. Alors, attendez, avant de quitter l'antenne, la Grande Motte, le forfait de la Grande Motte a été officialisé. Voilà, c'est Laurent Coulon qui vient nous faire passer l'info. Donc voilà, la Grande Motte qui devait monter
très
mercredi
pour la FL,
en Coupe de la Région ne
viendra
pas. Excellente
nouvelle, comme tu dis.
Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour peut-être pas pour le football, mais au moins pour la FL.
Donc tous à Marojol pour voir Marojol et Gomorte.
Voilà, 20h30 mercredi. Mercredi. Si et Gomorte monte à Mainsland.
À mercredi, j'ai Barcelone.
Non, c'est mardi.
Barcelone. Ah, c'est mardi.
Alors mercredi, tu as Bayern.
Non, tu as PSV Eindhoven contre Atletico de Madrid, justement.
Je l'aime, Marvel. Allez, normalement, la semaine prochaine, on sera pas là, on vous tient au courant. Sinon, dans deux semaines, les gars, c'est bon, dans deux semaines, ça te va ?
Pas de soucis.
Okay. On sera là.
Et on vous promet le retour de Laurent. On a reçu beaucoup d'SMS, mais il sera de retour. Ciao, les gars.
Ciao.
Au revoir.
C'est Leslie John au couloir numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Oui, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
On est tous tout seul.
Quarante-huit FM.